Chapitre 39. Le lendemain, dans sa petite chambre, Martin lut le journal du matin. Ce fut une expérience nouvelle pour lui que de voir son nom imprimé en gros titre et en première page. Il apprit avec stupeur qu'il était le chef de file des socialistes d'Auckland. En prenant connaissance du virulent discours que le reporter novice lui attribuait, il fut tout d'abord furieux, puis jeta le journal en riant. Ou bien ce type était saoul, ou bien c'est une machination, commenta-t-il, juché sur son lit, quand Brissenden vint lui rendre visite dans l'après-midi. « Qu'est-ce que ça peut te faire ? » dit Brissenden en se laissant mollement tomber sur l'unique chaise. « Tu ne cherches pas l'approbation des cochons de bourgeois qui liront le journal, je suppose. » Martin réfléchit un instant et répondit. « Non, bien sûr, je me fiche bien de ce qu'ils pensent. Mais ça ne va pas améliorer mes relations avec la famille de Root. Son père s'est mis en tête que j'étais socialiste et ce torchon va le conforter dans son idée. Ce n'est pas que je me soucie de son opinion, mais tout de même, à quoi bon ? Tiens, je voudrais te lire ce que j'ai fait aujourd'hui. Il s'agit de « Trop tard », bien sûr. J'en suis à la moitié. » Il était en train de lire à haute voix quand Maria ouvrit la porte et introduisit un jeune homme à la mise coquette qui entra en jetant des regards furtifs autour de lui sur le réchaud à pétrole, la petite cuisine de fortune et finalement l'occupant des lieux. « Asseyez-vous, » dit Brissenden. Martin lui fit de la place sur le lit et attendit qu'il en vint au motif de sa visite. « Je vous ai entendu parler hier soir, monsieur Eden, et je désire vous interviewer, » commença-t-il. Brissenden éclata de rire. « Un camarade socialiste ?» demanda le reporter en évaluant d'un rapide coup d'œil la couleur politique du rieur moribond. « Et c'est lui qui a écrit cet article, » dit doucement Martin. « Mais ce n'est qu'un gosse. » « Qu'est-ce que tu attends pour lui casser la figure ?» reprit Brissenden. « Ah, si j'avais encore mes poumons, je donnerais $1000 pour retrouver la santé 5 minutes. » Le petit reporter était un peu désorienté par cette conversation, qui semblait le concerner, mais se poursuivait sans lui. Sa brillante description de la réunion socialiste lui avait valu des compliments et il avait été chargé d'interviewer personnellement Martin Eden, le chef des dangereux conspirateurs. Vous ne voyez pas d'inconvénient à être photographié, monsieur Eden, dit-il. Mon photographe attend dehors et il dit qu'il vaudrait mieux vous prendre maintenant pour profiter de la lumière. Nous pourrons procéder à l'interview ensuite.
Un photographe, fit Brissenden songeur. Cogne-le, Martin, cogne-le.
Je crois que je me fais vieux, fut la réponse. Je sais que je devrais, mais je n'en ai pas la force. C'est sans importance.
Au nom de sa mère, insista Brissenden.
Ça mérite réflexion, mais est-ce que ça en vaut bien la peine? C'est fatigant, tu sais, de casser la figure à un type. Ça ne servira à rien de toute façon.
Absolument. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses,
approuva le blanc-bec d'un air détendu, bien qu'il eût déjà jeté plusieurs regards anxieux vers la porte.
D'un autre côté, reprit Martin en s'adressant toujours à Brissenden, il n'y a pas un mot de vrai dans ce qu'il a écrit.
« Oh, ce n'était qu'une description très générale, vous comprenez ?» hasarda le reporter. « Et puis ça vous fait une bonne publicité, c'est l'essentiel, n'est-ce pas ? C'était pour vous rendre service. »
« Une bonne publicité, mon vieux Martin, » répéta solennellement Brissenden. « Et c'était pour me rendre service, » renchérit Martin.
« Voyons. Où êtes-vous né, monsieur Eden ?» demanda le reporter d'un air très intéressé.
« Il ne prend pas de notes, » dit Brissenden, « il retient tout par cœur. J'ai une bonne mémoire. »
L'apprenti journaliste essayait de paraître détendu.
« Les bons reporters n'ont pas besoin de prendre de notes. »«
Et vous n'avez donc pas pris de notes hier soir ?»
Mais Brissenden n'était pas un adepte du quiétisme. Il changea brusquement d'attitude.
« Martin, si tu ne lui démolis pas le portrait, je m'en charge, même si je dois tomber raide mort dans la minute qui suivra. »
« Est-ce qu'une fessée fera l'affaire ?» demanda Martin. Brissenden médita la proposition, puis acquiesça. Un instant après, Martin était assis sur le bord du lit, avec le petit reporter à plat ventre sur ses genoux.
« Ne mords pas, » conseilla Martin, « ou je serai obligé de t'amocher la figure, et ce serait dommage, une si jolie figure. »
Sa main levée s'abattit, remonta, redescendit à une cadence régulière et soutenue. Le reporter gigota et jura
mais n'essaya pas de mordre. Brissenden, qui regardait la scène en silence, s'excita soudain et empoigna la bouteille de whisky en implorant
« Là, laisse-moi lui taper dessus juste une fois !»
Mais Martin mit bientôt fin au supplice. « J'ai perdu la main, dit-il. J'ai la paume déjà tout engourdie. » Il redressa le bébé et l'assit sur le lit.
« Je vous ferai arrêter !»
grogna le martyr, tout rouge, en versant des larmes d'adolescent colérique.
« Vous me le paierez. Attendez un peu !»
« Le pauvre petit !» commenta Martin. « Il ne se rend pas compte qu'il est sur la mauvaise pente. C'est malhonnête. C'est déloyal. C'est indigne d'un homme de raconter des menteries sur son prochain comme il l'a fait et il ne le sait même pas.
« Il est venu nous voir pour qu'on le lui explique, » dit Brissenden.
« Oui, après m'avoir calomnié l'impudent. Mon épicier refusera de me faire crédit maintenant. Ce qui m'afflige le plus, vois-tu, c'est que ce malheureux gosse va continuer sa détérioration jusqu'à devenir un journaliste de premier ordre, et aussi un escroc de premier ordre. Tout espoir n'est pas perdu, qui sait. Tu as peut-être été l'humble instrument de sa rédemption. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé lui taper dessus? J'aurais aimé participer au sauvetage de son âme.
Je vous ferai arrêter, tous les deux, brutes que vous êtes !»
sanglota la brebis égarée.
« Non, il a une frimousse trop mignonne et trop fragile, » fit Martin en hochant tristement la tête. « Je crains de m'être abîmé la main pour rien. Le garnement est incurable. Il est condamné à devenir un grand journaliste à succès. Il n'a aucune conscience. Il réussira. »
Le petit reporter prit la porte sans demander son reste, en tremblant de peur que Brissenden, qui tenait toujours sa bouteille à la main, ne lui en assène un coup par derrière. Dans le journal du lendemain, Martin apprit beaucoup de choses nouvelles sur son propre compte. « Nous sommes les ennemis jurés de la société », lui faisait-on dire dans l'interview. « Non, nous ne sommes pas anarchistes, mais socialistes. » Le reporter lui ayant fait remarquer qu'il y avait peu de différence entre les deux écoles, Martin avait simplement haussé les épaules. L'article le dépeignait comme un individu au visage asymétrique, montrant de nombreux signes de dégénérescence. Il avait les yeux injectés de sang et surtout des mains redoutables, épaisses comme des battoirs. Il apprit également qu'il était connu pour ses harangues nocturnes à City Hall Park, où il était le plus écouté et le plus enflammé de tous les agitateurs anarchistes et que ses discours étaient les plus révolutionnaires. Le bébé journaliste brossait un tableau pathétique de sa misérable petite chambre, avec son réchaud à pétrole et sa méchante chaise boiteuse, ainsi que de son sinistre acolyte, un voyou à tête de mort qui semblait sortir d'une réclusion de 20 ans au fond d'un cachot. Le petit bonhomme avait fait diligence. Il avait glané des renseignements sur les origines familiales de Martin et publié une photographie du magasin Higginbotham avec Bernard Higginbotham en personne posant sur le pas de la porte. Ce monsieur était présenté comme un commerçant respectable et intelligent qui détestait les idées socialistes de son beau-frère autant que le beau-frère lui-même, un paresseux qui refusait tous les emplois et finirait en prison. Hermann von Schmidt, le mari de Marianne, avait été également interviewé. « Martin était la brebis galeuse de la famille, » disait-il, ajoutant qu'il lui avait interdit sa porte. « Il a essayé de profiter de moi, mais j'ai vite mis le holà, » expliquait-il. « Il n'a pas intérêt à venir rôder dans les parages. Un homme qui ne travaille pas est un moins que rien. » C'est moi qui vous le dis. » Cette fois, Martin prit la mouche. Brissenden regardait l'affaire comme une bonne blague, mais ne parvint pas à consoler Martin, qui se demandait avec angoisse comment expliquer la chose à Route. Son père devait déjà se frotter les mains et se préparer à exploiter l'incident pour rompre leur fiançailles. Il ne tarda pas à être fixé sur son sort. L'après-midi même, le facteur lui apporta une lettre de Route. Martin pressentit aussitôt un désastre et la parcourut d'une traite, dès qu'il l'eut entre les mains, debout devant la porte. En lisant, il fouilla machinalement dans la poche où il serrait naguère son tabac et son papier à cigarette, oubliant qu'elle était vide depuis longtemps. C'était une lettre dépassionnée, sans la moindre acrimonie. Mais, de la première à la dernière phrase, on y sentait le dépit et la déception. Elle s'était attendue à mieux de sa part. Elle avait cru que son amour pour lui l'avait guéri de ses folies de jeunesse et lui avait donné le désir de mener une existence sérieuse et digne. À présent, ses parents avaient changé de ton, avaient exigé la rupture de leurs fiançailles, et elle ne pouvait leur donner tort. Leur union ne leur eût jamais apporté le bonheur. Cela avait été une erreur dès le départ. Dans toute sa lettre, elle ne manifestait qu'un seul regret, et ce fut un crève-cœur pour Martin.
Si seulement vous aviez pris un métier pour tenter de devenir quelqu'un, écrivait-elle. Mais non, c'était sans espoir. Votre passé était trop échevelé. Sachez que je ne vous en blâme pas. Ce n'est pas votre faute. Vous avez agi conformément à votre vraie nature et à vos origines. Je ne peux pas vous le reprocher, Martin. Croyez en ma sincérité. C'était une simple méprise. Ainsi que père et mère me l'ont répété, nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Et nous devons tous deux nous estimer heureux de nous en être aperçus avant qu'il n'ait été trop tard. Vers la fin, elle ajoutait « Inutile de chercher à me revoir. Ce serait de tristes retrouvailles pour vous et moi, ainsi que pour ma mère. Je lui ai déjà causé assez de peine et de soucis. Je mettrai longtemps à me faire pardonner. »
Il la relut d'un bout à l'autre, puis s'assit à sa table pour lui répondre. Il insista sur les propos qu'il avait réellement tenus lors de la réunion socialiste, en faisant valoir qu'ils étaient en totale contradiction avec ceux que le journal lui attribuait. Pour finir, il se posa en fol amant de Dieu qu'aimant dans l'amour à genoux. « Je vous en prie, répondez-moi, écrivit-il. Je ne vous demande qu'une chose, m'aimez-vous. C'est tout. Répondez à cette seule question. » Mais aucune réponse ne vint le lendemain, ni le jour suivant. Trop tard, gisait toujours inachevé sur la table, tandis que, en dessous, la pile des manuscrits refusés continuait à s'amonceler. Pour la première fois, Martin connut l'insomnie. Ce furent de longues et pénibles nuits blanches. Il alla sonner 3 fois chez les Morses, pour être chaque fois éconduit par un domestique. Brissenden, malade, restait alité dans sa chambre d'hôtel et malgré ses fréquentes visites, Martin refusait de l'importuner avec ses problèmes personnels. Or, ses problèmes étaient légion. Les suites de l'article du petit reporter furent pires qu'il ne l'avait imaginé. L'épicier portugais lui refusa tout nouveau crédit et le fruitier, qui se proclamait américain et fier de l'être, le qualifia de traître à son pays, décida de ne plus lui adresser la parole et poussa le patriotisme jusqu'à annuler ses dettes en lui interdisant formellement de le rembourser. On se mit à jaser dans le quartier, et une vague d'hostilité monta contre Martin. Personne ne voulait avoir de commerce avec un traître socialiste. Seule la pauvre Maria, bien qu'en proie au doute et à la crainte, resta loyale envers lui. Les enfants du voisinage, revenus de la forte impression que leur avait produite l'arrivée du bel attelage dans la rue, se cachaient sur son passage pour le traiter de clochard et de feignasse. La tribu Silva le défendait bec et ongle, livrant de farouches batailles pour la sauvegarde de son honneur. Les yeux pochés et les nez cassés étaient leur lot quotidien, ce qui ne faisait qu'accroître le trouble de Maria. Un jour, Martin rencontra Gertrude dans une rue d'Auckland. Elle lui apprit ce dont il se doutait déjà. Bernard Higginbotham l'accusait d'avoir traîné le nom de la famille dans la boue et lui interdisait sa porte. « Pourquoi que tu t'en vas pas, Martin ?» lui demanda-t-elle. « Sauve-toi, et trouve-toi un gentil petit boulot quelque part. Après, quand tout ça sera tassé, tu pourras revenir. » Martin secoua la tête, sans autre explication. Que pouvait-il lui expliquer? Il ne pourrait jamais franchir l'abîme intellectuel qui le séparait des siens et leur expliquer sa position, la position de Nietzsche à l'égard du socialisme. Il n'y avait pas assez de mots dans la langue anglaise, ni dans aucune autre langue, pour leur rendre intelligible sa conduite et son attitude. Leur plus haute conception de la morale exigeait qu'il prît un emploi. Il n'avait que ce mot à la bouche, un emploi. C'était leur unique précepte. Travail. Pauvres esclaves bornés, songeait-il en écoutant sa sœur. Comment s'étonner que le monde appartint aux forts? Les esclaves ne croyaient qu'à l'esclavage. Le travail était un veau d'or devant lequel il se prosternait. Il refusa l'argent que Gertrude lui offrit, sachant pourtant qu'il serait obligé de rendre visite au prêteur avant la fin de la journée. Évite Bernard pour le moment, lui conseilla-t-elle. Dans quelques mois, quand il se sera calmé, il acceptera peut-être de t'embaucher pour conduire la carriole. Chaque fois que t'auras besoin de moi, fais-moi chercher et je viendrai. N'oublie pas. » Elle s'en alla en pleurant. Son pas pesant et sa triste dégaine lui arrachèrent le cœur. Tandis qu'il la regardait s'éloigner, l'édifice nietzschéen vacillait et menaçait de s'écrouler. Dans l'abstrait, la suprématie du surhomme se concevait très bien, mais quand la race des esclaves englobait sa propre famille, c'était plus difficile à admettre. Pourtant, s'il y eut jamais esclave piétiné par les puissants, sa sœur Gertrude en était l'archétype. Quelle farce! Et quel beau surhomme nietzschéen il faisait pour se laisser ébranler par un tel sentimentalisme, puis encore, pour se laisser lui-même séduire par la morale de l'esclave, car la pitié que lui inspirait sa sœur était sincère. Les vrais nobles étaient au-dessus de la compassion et de la pitié. Compassion et pitié étaient nés dans des baraquements d'esclaves, dans la sueur et les larmes des misérables et des faibles.